Voici ce qui se passe derrière le rideau de l'émission, là où tout se décide.
Salut les amis!
Salut Charline! Ah,
je suis tellement contente, enfin, on la reçoit, ça y est!
Oh, qui? Pamela Anderson!
Ah non, pardon, on a beaucoup plus élégant aujourd'hui, hein. Florence Foresti!
Aïe,
ça vous fait pas plaisir?
Moi, je suis pas certain de pouvoir venir parce que j'ai des analyses aujourd'hui.
Moi, j'ai un rendez-vous important pour les obsèques de ma grand-mère.
Mais pas déjà décédée l'an dernier?
L'autre, oui, mais j'en ai deux.
Bah, elle est décédée l'année d'avant, celle-là!
Ah! Oui, elle avait repris un peu du poil de la bête.
Ah oui, je l'ai revue, elle était très bien.
Oui,
bien.
Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive là?
Ils ont peur de la concurrence, hein.
Les petits joueurs.
C'est la patronne de l'humour, Foresti.
On va paraître pas drôle à côté.
Ça arrive aussi quand elle est pas là.
La journaliste, si toi on te met Christine Ocrenne, tu vas être bien, tu crois?
La reine Christine, là, je la mange, moi, je la bouffe.
Nous on n'a pas la prétention de manger Foresti.
Non. Voilà. Et surtout, ça vous fait mal que ce soit une fille.
Non.
Quand même.
Oui, un peu. Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir comme ça en plateau une fille plus drôle que nous. Voilà.
Je dirais qu'on n'a pas l'habitude en plateau d'avoir des filles drôles du tout. C'est tout.
Ouais.
Non.
Jamais vous vous êtes dit d'une fille, tiens, celle-là, elle est drôle.
Si, il y en a une. C'est vrai. Maud Fontenoy, quand elle est venue, elle a parlé d'écologie. C'était marrant.
Maud Fontenoy. Les garçons, vous êtes nuls.
Mais pourquoi?
Charline, elle est drôle.
Charline.
Je dirais qu'elle est plus cocasse que drôle. Elle fait pas exprès.
Voilà, mais si je suis drôle déjà.
Pour une journaliste, c'est vrai qu'il y a
plus drôle que Christine Ocrenne.
Voilà,
on va dire.
Je suis pas une humoriste, c'est ça que vous dites?
C'est ça en fait.
Ça tombe bien parce que si je suis beaucoup moins drôle que Florence Foresti, on me le reprochera pas moi. Tiens, voilà.
Tu vois? Elle est pas drôle. Elle rit de ses problèmes. On dirait Gad Elmaleh.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui disperse les informations aux quatre vents. Et voici les deux invités qui vont tenter de les attraper au vol. Florence Foresti, qui nous a laissé un beau souvenir de son interprétation de Brigitte Macron dans le sketch. Mais avant, nous avons aussi débattu de la manière dont le cinéma parle de la médecine et aussi de la façon dont, en France et ailleurs, on fait la queue. On fait la file, quoi. Nous accueillerons ensuite Philippe Tesson. Et alors là, est-ce vraiment utile de vous annoncer les thèmes? Parce que Philippe Tesson nous a éclaté l'émission. Il nous a retourné comme une crêpe. On avait pourtant essayé de lui poser cette question. Est-ce que nos élus sont suffisamment bien payés, étant donné qu'ils tentent sans cesse de filouter? Alex Vizorek!
Charline Vanhoenacker!
Alors, qui vient mettre son grain de sel dans cette émission?
Je vous rappelle que c'est une émission culturelle, donc j'ai des chroniques culturelles à vous proposer. Il y aura notamment André Manoukian qui parlera d'une chanteuse tunisienne, Madame Maclouti. Il y aura également Juliette Arnaud qui nous parlera d'un livre de Monsieur Carson McCullers. Et puis, un peu de rigolade, on a envoyé Guillaume Meurice à la Fashion Week et on terminera, comme chaque fois qu'on fait des meilleurs moments, avec du Frédéric Fromet dans une parodie de Fauve.
Youhou! Allez, c'est vendredi, en voiture Simone!
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Sort en salle de plus belle, Dan Gaël Daval. Alors, votre personnage, c'est Lucie, enfin guérie d'un cancer, mais elle en porte encore les traces, autant psychologiques que physiques. Alors, votre rôle, est-ce que vous avez dû vous faire un peu violence pour aller dans ce registre? Parce que j'ai lu des interviews de vous, vous disiez, il y a quelques années, donnez-moi un rôle tragique et je sombre. À l'époque, vous n'avez pas pu aller voir La guerre est déclarée ou Police. Il paraît que vous êtes sortie de la séance de Blue Valentine, comédie romantique, mais il y avait un chien qui mourait.
Bah oui, au début. Un joli labrador.
C'est
pas possible. C'est bizarre.
Alors, en tant que spectatrice,
un chien qui meurt, c'est insoutenable.
En tant que spectatrice, il y a une difficulté.
Ouais.
En tant qu'actrice, aller dans ce registre.
J'avais pas le souhait d'y aller du tout, et c'est le scénario qui m'a pris contre-courant complètement. Le scénario m'a fait craquer, vraiment. J'ai été extrêmement émue aux larmes en lisant le film d'Adiel. Donc là, oui, voilà. Je vous laisse un petit peu imaginer.
Et la démarche de l'agent, il a déposé en disant ça te plaira sans doute pas.
C'est pas l'agent, c'est venu en direct dans ma boîte. C'est pas beau ça?
Non, ça fait plaisir.
Anne-Gaëlle, elle m'a contactée directement par mail. Après, c'est moi qui ai dit à mon agent tu veux pas qu'on fasse ça? C'était l'inverse.
Il est donc taillé pour vous. Votre métier, ça a toujours été d'extérioriser. Là, votre personnage, et là, votre job d'actrice, c'est justement d'intérioriser.
Ouais.
Donc, c'est vraiment... Alors, moi, avec mon regard naïf, je vous pose la question tout à fait benoît
battements. Hein. Mais c'est ça, des années vous extériorisez le comique, et puis là, il faut tout prendre et tout mettre à l'intérieur.
C'est un peu plus dur pour moi, que l'inverse. Parce qu'en fait, je suis aussi comme ça dans la vie, je parle fort, je bouge beaucoup, c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Me demandez pas. Donc là, il a fallu tout rétrécir un petit peu, tout ralentir. Voilà, mais c'était tout le défi qui était intéressant pour moi, bien sûr.
Et parfois, faire ressortir légèrement, avec nuance, toutes ces femmes que vous avez toujours jouées sur scène, parce que votre rôle de comique sur scène, c'est des portraits de femmes. Et il y a un côté très féministe, il y a aussi finalement une forme de message dans ce que vous faites sur scène. Et là, par petite touche, est-ce qu'elle revient parfois? Parce que dans les scènes avec Mathieu Kassovitz, qui est le type qu'elle rencontre et qui va la faire aller de l'avant, enfin on ne sait pas si ça va être tu avances ou tu recules, ça on ne sait pas, je vous laisse deviner. Mais à ce moment-là, il y a, dans le contraste avec le jeu, il y a un peu de celle-là qui revient, cette Florence Foresti-là.
Oui, c'est vrai, parce que Anne-Gaëlle voulait pas complètement éteindre le personnage. Lucie, elle est fatiguée, elle est abîmée, mais elle voulait qu'elle ait de la fantaisie, de l'humour. C'est juste qu'elle a une période de sa vie où c'est pas ce qu'elle met en avant et c'est pas ce qu'elle pratique le mieux. Comme j'imagine que ça peut m'arriver, comme j'imagine que ça arrive à beaucoup de gens, d'avoir leur comportement qui a complètement changé par un événement malheureux. Donc on voulait quand même que cette Lucie, elle ait un peu de moi, évidemment. Donc quand elle se prend à être heureuse, bah ça rejaillit un petit peu son humour ou sa causticité, voilà.
Parce qu'il y a une petite pointe de comédie romantique malgré tout, puisque le film est très positif.
Oui.
Pas de chien.
Déjà, on n'a pas fait mourir de chien. Voilà, première chose, parce que ça, c'est dans mon contrat.
C'était long.
D'ailleurs, d'agent, il est stipulé qu'il est absolument impossible que je joue dans ce genre de film.
Maque le pas, un, deux, ancien combattant, un assoutiri. Maque le pas, un, deux, ancien combattant, un assoutiri. Maque le pas, un, deux, ancien combattant. Maque le pas, un, deux, ancien combattant, un assoutiri.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarade ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Avec le coup de matraque et tout à coup patatras.
Cadavère, le peuple cadavère. Les militaires cadavère. Les rois cadavère. Les reines cadavère. Tous les présidents cadavère. Les ministres cadavère. Tous les mondes cadavère. Et moi-même cadavère.
Maque le pas, un, deux, c'est combattant.
On a sauté.
Maque le pas.
La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand viendra la guerre, tout le monde affamé, oh. Quand viendra la guerre, tous nos enfants affamés, oh. Le coq ne va plus le coquer, cocorico. La poule ne va plus le pouler les œufs. Le footballeur ne va plus le footer, pousser les ballons. Tout le monde ne va plus le footer, pousser le ballon.
Cadavère, les joueurs, cadavère. Les équipes, cadavère. La radio, cadavère. La télévision, cadavère. Les stades, cadavère. Les arbitres, cadavère. Les supporters, cadavère. Ta femme, cadavère. Ton premier bureau, cadavère. Deuxième bureau, cadavère. Mes bœufs, cadavère. Mes moutons, cadavère. Mon chien, cadavère. Mon chat, cadavère. Tout le monde est cadavère.
Et moi-même, cadavère.
Ce combattant,
on a sauté.
Maque le pas.
La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les patriotes, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les gaz, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les scouts, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand tombera la bombe, tout le monde est bombé. Oh.
Cadavère,
ton pays,
cadavère.
La France,
cadavère.
L'Italie,
cadavère.
L'URSS,
cadavère.
Les États-Unis,
cadavère.
L'Allemagne,
cadavère.
Les enfants,
cadavère.
Tout le monde.
Programmation musicale, Djoubaka.
Charline Vanhoenacker.
Que je salue.
Alex Vizorek.
C'est quoi cette histoire ?
C'est...
Si tu écoutes, j'annule tout. Ah. Sur France Inter.
Florence Foresti est avec nous. On va aborder ce premier sujet avec vous. Le cinéma peut avoir un rôle à jouer dans l'apprentissage de la médecine, figurez-vous. Pour parler aux patients, développer l'empathie au moment d'annoncer une mauvaise nouvelle, la fiction permet de simuler la relation au patient. Parce qu'au-delà de la connaissance encyclopédique et technique des médecins, le truc à améliorer, c'est le savoir-être du médecin. Démonstration.
C'est grave, docteur.
Vous pouvez vivre très longtemps avec ce que vous avez. Faites-moi confiance.
Alors ça, c'est grave. C'est le cœur, n'est-ce pas ?
Non, c'est un peu tout. comment vous dire ? Vous êtes usé, c'est ça, vous êtes usé, monsieur...
Martinet,
c'est ça. Eh bien, vous êtes usé.
Qu'est-ce que je dois faire, docteur ?
Quel âge avez-vous ?
Oui, 59 ans, bientôt 60.
Moi, je serai vous. Je prendrai ma retraite anticipée.
Michel Serrault et Michel Galabru dans Le Viager. Voilà, exactement. Ça vous étonne, vous, que finalement ce soit par cet entre-gens, par ce moyen, qu'une faculté de médecine utilise ce moyen et dise aux médecins, tenez, regardez par le ton de la caméra, regardez cette scène, etc., pour développer cette empathie. Vous qui êtes plutôt du côté du cinéma, c'est très étonnant.
Oui, c'est très étonnant. Je ne savais pas du tout, mais pourquoi pas ? Je veux dire, moi, tous les moyens sont bons pour améliorer... Ce rapport-là, enfin, je veux dire, on sait que je savais que le théâtre plutôt était très utilisé dans les rapports, mais le cinéma, non, mais pourquoi pas.
Vous allez peut-être devenir l'idole de toute une génération de cancérologues.
Non, chouette.
C'est vrai. Vous avez le secret espoir qu'évidemment ce film soit une forme de thérapie collective, parce que même les gens qui sont pas touchés par le.
Bon, j'irai pas jusque-là, non. À entendre certaines personnes, c'est un film qui fait du bien. Après, moi, je ne saurais vraiment pas dire, je ne saurais pas me mettre à la place du spectateur, s'il est concerné ou pas d'ailleurs, car par chance, je ne le suis pas. Donc, c'est très difficile de savoir comment il va être reçu. Non, vraiment, je ne sais pas.
Sujet avec vous, Florence Foresti.
Oui.
Un sujet de fond.
Allez.
Le journal Libération a fait bosser les réfugiés et parmi les articles qu'ils ont rédigés, il y a celui-ci sur la queue. Faire la file, que ce soit en Libye ou en France, on perd de longs moments à faire la file, pas pour les mêmes raisons, sauf pour l'administration, là c'est pareil, en fait, sauf si vous êtes des Parisiens. Les Parisiens, c'est autre chose.
Ah, des blagueurs.
Bonjour.
Bonjour.
C'est pour un renouvellement de passeport.
Oui. C'est la file d'attente, oui.
C'est la file d'attente. Mm-hmm. Parce que nous, c'est pour partir en Égypte.
Et alors ?
Oui, puis c'est pas obligé que la vie, on s'en fout, ça.
Est-ce que je vous ai dit que j'étais enceinte ?
Non.
Non, parce que je suis prioritaire, normalement. Hein ?
Vous êtes enceinte de combien ?
Ben, de mon mari seulement.
Si c'est une blague, je l'ai pas comprise. Et puis, si vous êtes enceinte, je m'excuse, mais vous n'avez pas de ventre.
Ben, parce que ça fait pas très longtemps.
2 ou 3 heures, par là.
2 ou 3 heures, par là.
Bon, alors ça ne marche pas pour la resquille, donc vous allez prendre un ticket.
D'accord. Ah, parce que c'est tiré au sort ?
Alexandra Lamy, Jean Dujardin, dans Un gars, une fille. C'est donc un article paru dans Libération. Libération qui fait un numéro spécial, rédigé par des réfugiés. Et il y a cet article où une réfugiée libyenne, que je vais citer, qui s'appelle Lamia Abouchkiwa, qui est coordinatrice de voyages et d'événements en Libye, normalement, qui rédige cet article et qui remarque finalement quelque chose qui fait partie de sa vie là-bas, enfin qui faisait partie de sa vie là-bas, de faire la queue, c'est aussi le fait ici, mais pas pour les mêmes raisons. D'où on s'est dit, on va traiter le sujet. Florence Foresti, ça vous arrive encore de faire la file, vous ?
Ou alors, oh, c'est chiant, hein, oui.
Ah, oui,
mais je la fais d'autant plus de manière disciplinée que si, par inadvertance double ou quoi, je me fais défoncer. Oui. Mais pour qui est-ce prend-là ? C'est pas parce que vous faites de la télé. Et alors, parfois, je ne veux pas doubler, mais on vient me chercher. Tu sais, par exemple, je sais pas, Air France ou un truc, tu fais la queue et il y a quelqu'un qui dit « Je vous ai reconnu, je vais vous faire passer ». Je lui dis « Non, ne me faites pas passer, parce qu'on va vraiment se faire insulter, vous allez voir ». Et je suis sûr, moi, je vous fais passer et là, je me fais évidemment défoncer, ce qui est normal, évidemment. C'est enrageant de voir ça, tu vois.
C'est vrai.
Donc oui, je fais la queue, évidemment, bien sûr. Sauf quand on me fait doubler, là, c'est quand quand même dur de refuser. Et bon, bah, on se fait insulter, et puis on court des chines, et puis on avance.
À part l'insulte, c'est plutôt sain de dire non, écoutez, je vais pas passer parce que ça ne se fait pas finalement.
Ah bah
c'est
oui.
plutôt sain.
Non, bah oui, parce que c'est pas très bien vu. Mais André Manoukian, j'ai horreur qu'on me double en revanche.
Ah oui.
Ah putain, alors ça me fait ça. Ah bah là, je parle toute seule. Oh non, mais tranquille celle-là. Une petite folle, une dingue.
On regarde les autres en soufflant. Ceux qui font bien la file.
Oui. Et
on
après,
montre collectivement à celui qui a triché qu'il n'est plus du groupe.
Ouais. Mais tu sais qu'il y a des pays où ça fait mieux la file. Par exemple, je trouve qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus. Ah, et en Angleterre aussi. Qu'est-ce qu'ils sont bien organisés. Je voyais, on a pris le train l'autre jour et il faut mettre les machins là. Tu vois, il faut faire. Alors, pas les labyrinthes insupportables où quand il n'y a personne, tu fais le labyrinthe. Ça, c'est quand même toute la folie de l'existence. Ça, moi je me dis, mais si on nous voyait, le labyrinthe, je passe dessous, je me sens un peu comme, tu vois, vraiment...
Ouais, rebelle, anti-système.
Je suis une rebelle de fou, j'ouvre le ruban et je passe, oh là là, mon Dieu, elle a resquillé.
Il y a un gars tout au bout qui dit, ah ben voilà, Forestier fait de la télé,
regardez-moi ça, elle a enlevé le ruban. Mais sinon, je trouve que oui, les Américains et les Anglais sont plus organisés dans la file et ça gueule moins et en fait, ça va beaucoup plus vite.
Et on se sent moins humilié.
On est resté latins, nous.
Ouais, c'est ça. Chez nous, on se sent humilié de faire la queue, c'est bizarre.
Mais c'est rigolo chez nous.
Moi, je sais pas, je fais croire que je suis enceinte.
Non, mais on a un côté latin chaotique que j'aime bien aussi. Quand je reviens en France, j'aime bien le bordel. J'aime bien le bordel à la douane française.
Et est-ce qu'il y a parfois, comme dirait NKM dans le métro, des moments de grâce? Non, parce que c'est des moments où on est obligé d'attendre.
Là, on est tous au même niveau. Alors, ce que j'aime pas, c'est qu'on donne pas la priorité aux femmes enceintes ou aux enfants. Ah. Alors ça, il faut vraiment leur donner parce qu'elles osent pas, des fois.
Ou aux personnes âgées
Oui, évidemment, bien sûr, aux personnes âgées, bien sûr. Mais les enfants, après 10 heures de vol ou des trucs comme ça, les gamins, les mamans avec plein de gamins, alors ça, il faut vraiment laisser passer.
En fait, ce qu'il faudrait, ce qu'on supporte pas, c'est d'être dans une queue avec des gens, mais qui ne se disent rien, qui se regardent en chien de faïence.
On devrait tous se parler.
Exactement.
T'as raison. Faire une queue le géant, une chenille.
Pas, chanter, faire des trucs. À Boston, il y avait un chauffeur de métro qui était génial. Il chantait dans le micro du truc et tout.
Ça faisait passer le temps.
Il y en a un à Paris. Sur la ligne 2, il y en a un qui fait ça, qui récite des poèmes.
Sans blague.
Ouais, mais ça va être chiant si les poèmes sont.
Non, parce qu'il est rigolo.
Il faut l'inviter. Charline, il faut l'inviter. Le chauffeur de métro de la ligne 2 de Paris, il faut l'inviter. Il fait du bien à l'humanité.
Là, il est poète. C'est magnifique.
Non, mais
faire ça dans ce contexte.
C'est ça, remettre du lien. C'est pour ça que les gens, ils votent Marine Le Pen après. Voilà. Ça va pas du tout.
Alors,
les gars,
invitez-moi ce bonhomme. On va lutter.
Effectivement. Et après, bon, là, je vous renvoie à cet article qui raconte quand même qu'il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui ont la chance de faire la file, bien sûr, dans les musées ou les cinémas. Mmh. Et c'est toujours réjouissant de voir une file, même une longue file au musée ou au cinéma. Mmh. Et ceux qui font la file à la préfecture. Ouais, au théâtre. Et ceux qui font la file à la préfecture, bien sûr. Mais nous, on va rester aujourd'hui dans le sourire, la comédie. On a un défi à vous lancer.
Mais oui.
Qui est une proposition tout à fait indécente, Florence Foresti.
Chaque fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre sur le moment. Avec un
rôle. Je n'ai pas répété.
Comme tous les jours. Vous êtes Brigitte Macron, parce qu'on s'est dit que tout le monde veut rejoindre Emmanuel Macron et qu'il faut quelqu'un qui soit à l'entrée de la boîte de nuit pour faire le tri. Donc, vous êtes sorteuse de boîte de nuit Brigitte Macron, je vais faire Emmanuel Macron et Guillaume.
Ça vous dérange pas si je fais une Brigitte Macron qui a pas du tout la voix de Brigitte Macron?
Non, on s'en fout. Bon, on s'en fout.
Voilà.
L'important, c'est que ce soit brillant.
Qu'elle se vexe pas. Hein.
Comme seul vous savez faire.
C'est qui fait lui, là?
Ça va, ma Bribri, tu t'en sors?
On m'en parle pas, putain, je suis débordé, c'est une véritable auberge espagnole.
Bonsoir, je suis à la Madeleine, je peux rentrer?
Tiens, qu'est-ce que je te disais, même l'ultra-gauche est là.
Attendez, pardon, mais je crois que vous me confondez avec Patrick Braouzek, là.
Ah, ça m'étonnerait, il est déjà à l'intérieur en train de boire des coups avec la reine d'Angleterre.
La reine d'Angleterre est avec nous?
La reine d'Angleterre ou Madame de Fontenay, j'en sais rien, je sais pas. Rick Mouveau, les ralliements, on devrait bientôt avoir Rémi Brica, Michel Thor et Popek.
Bonsoir, excusez-moi de parler, j'ai apporté quelques confitures.
Même Fillon?
Je n'en peux plus de soutenir mon mari, je voulais vous parler.
Désolée, vous voyez pas que je suis en plein travail, là?
En quoi? En toi?
Ouais, travail, ça vous dit rien, évidemment, laissez tomber, ça serait trop long à vous expliquer.
Ouais, bonjour, bonjour.
Ah, désolé, monsieur, on n'en rentre pas avec les baskets.
Non, mais je m'appelle Zinedine Zidane.
Zizou, champion du monde!
Bon, vous pouvez entrer, mais je vous fais confiance, hein, pas de coup de boule si Icon Bendit insulte votre sœur, hein.
D'accord, madame.
Bonsoir, je peux avoir le programme de la soirée?
Ah bah non, y en a pas.
Non mais allô quoi, t'as un mec, t'as pas de programme.
Nabila!
Jolie cette mini-jupe, vous l'avez achetée où?
Ah, te plaît?
Ah beaucoup, c'est très important la tenue vestimentaire, hein. Sinon Emmanuel aurait appelé son mouvement en moche.
Aïe, hein.
Mais qu'est-ce qui vous arrive?
C'est parce que j'ai compris, il y a un jeu de mots avec En Marche.
Exact, alors... Allez, suivant.
Bonsoir, je suis Alain Juppé.
Ah bah lui, il peut rentrer, il nous a déjà beaucoup aidé Alain.
Très bien, mais vous venez pourquoi?
Bah, pour faire la fête.
Ah, bien sûr, je suis con, ça se voit. On attendait plus que vous, hein, pour mettre de l'ambiance.
Ah, bah là, je suis chaud bouillant.
Allez, suivant.
Coucou.
Ah, bah c'est le pompon, ça.
Oh, Mme Pécresse, quel bonheur de vous voir.
Ah, bah moi aussi, cette fois, je suis certaine. Alors là, je vous jure, hein. Là, vraiment, c'est vous que je soutiens.
Ne jurez pas, Valérie, s'il vous plaît, ne jurez pas.
C'est incroyable, tous ces gens.
Je vais être honnête avec toi, si Poutine débarquait, je serais même pas surprise.
Non, je suis là.
Et ça ne lui va pas du tout cette voix, je suis désolée. Pardon Brigitte. Hein.
Oui, ça peut aller.
Mais
si
non,
si.
Mais je voulais pas faire ce genre-là non plus. Et j'en ai pas des millions en fait.
Globalement, il y avait un très gros niveau d'imitation hein, autour de la table. Il y avait un très gros niveau autour de la table d'imitation. C'était Canteloup. Hein. Il y avait
arrêtez. Merci Florence Foresti de vous être prêtée à ce jeu qui est un peu la douche écossaise. On passe de la politique au rire, au sketch, au n'importe quoi.
Mais c'est très sympa.
Merci. André Manoukian, si on prenait un peu le large avec la musique. Je vous vois rêveur.
Oui, moi je vais vous parler d'une autre femme qui ne fait pas des confitures, elle fait autre chose. Alors, une chanteuse syrienne me disait récemment, vous les occidentaux, vous ne pouvez pas comprendre à quel point le miroir est capital pour une femme en Orient. Si on reste des heures devant à se coiffer les cheveux, à les enduire d'huile, à se masser la peau, le visage avec des onguents, ce n'est pas seulement pour le plaisir de s'occuper de son corps, c'est parce que c'est le seul moment de vérité qu'on échange avec nous. Le miroir, c'est le seul endroit face auquel on ne triche pas, devant lequel on ne cache rien. Or, une femme orientale cache tout. Ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit, ce qu'elle est. Jusqu'au soir où seule face à son miroir, elle se retrouve enfin. Eh ben, Emel Matlouti, elle est née en Tunisie. Et pourtant, elle n'est pas une femme orientale. Parce qu'elle ne cache pas ce qu'elle pense, ni ce qu'elle dit, ni ce qu'elle écrit, ni ce qu'elle compose. Parce qu'elle serait plutôt le contraire d'une femme qui murmure devant son miroir. Elle serait plutôt du genre à chanter bien fort dans la rue. Pendant la révolution tunisienne, en 2011, avec son petit manteau rouge au milieu de la foule, avec juste la flamme de son briquet allumée, elle est filmée par hasard par une caméra, en train de chanter. Et les images vont faire le tour du monde. Et la voilà, chantant la même chanson qu'elle a composée quelques années plus tard, en 2015, devant des milliers de personnes lors du concert pour le prix Nobel de la paix, avec des milliers de flammes reprises dans la foule avec le téléphone. Ces paroles, je suis libre et je n'ai pas peur, je suis la voix de ceux qui ne courbent pas les chines, je suis le sens au milieu du chaos, je suis les droits des oppressés qui sont vendus par les puissants. Voilà ce qu'elle chantait en 2011 en tenant son briquet allumé, cette mèche de la révolution de jasmin qui a mis le feu aux poudres de tout le Moyen-Orient et qui 6 ans plus tard a reculé partout jusqu'à engendrer la terreur syrienne. Et pourtant, elle continue, Emel, l'insoumise. La voilà maintenant dans ce magnifique documentaire de Sarah Najafi, No Land Song. Sarah Najafi est une compositrice iranienne qui essaye de monter un concert de femmes à Téhéran. Or, depuis la révolution iranienne, les femmes n'ont pas le droit de chanter sans être accompagnées d'un homme sur scène. Alors Sarah Najafi, elle a fait appel à des copines françaises, Jeanne Chéral, Élise Caron et bien sûr à notre insoumise tunisienne, Emel Matlouti. Au début, celle-ci ne comprend même pas le propos révolutionnaire du doc. En quoi est-ce un acte de résistance d'organiser un concert de femmes en Iran à Téhéran ? Et quand elle va se heurter au réel, Emel va être la plus virulente, la plus révoltée. Elle qui admirait tant la culture iranienne à travers son cinéma, notamment Abbas Kiarostami, Jafar Panahi. Parce que les femmes doivent être accompagnées sur scène par des hommes, mais pas par des instrumentistes, par des hommes chanteurs, afin que la voix des hommes couvre la voix des femmes. Et là, dans le doc, je vous jure, il faut le regarder. Ça s'appelle No Land Song, c'est magnifique. En plus, elles sont d'une telle beauté. Il y a un mot là qui explique. La voix chantée de la femme se transforme pour donner du plaisir. Et aucun homme décent ne devrait ressentir d'excitation sexuelle. Mais putain, il a tout compris, le mot là.
Il n'a jamais écouté Lara Fabian, surtout.
Si sa voix vient du vagin, laisse tomber. Surtout quand on sait que la voix de la chanteuse... Est-ce que vous saviez ça, Florence ? La voix de la chanteuse jaillit d'une contraction du périnée, hein, qui fait monter l'air à travers le ventre, la poitrine, faisant vibrer les cordes vocales qui ressemblent furieusement à un vagin sans poil, on est d'accord. Ouais. Que du cul dans le champ. Mais oui.
Vous n'avez jamais fait de photos de vos cordes vocales ? Moi, je les ai laissées traîner à la maison et les gens ont eu peur. Mais il ne faut pas laisser traîner la photo de ses cordes.
Ouais, de son vagin.
Non plus. Ça, je dérange bien.
Bref, Emel, Sans doute lasse d'entendre des conneries pareilles, est partie s'installer à New York. Elle veut être la maîtresse de son destin. Si elle a choisi la musique plutôt que la comédie, c'est qu'une musicienne peut se débrouiller sans avoir à attendre après le désir d'un metteur en scène. Pour son deuxième album, elle est partie en résidence avec des producteurs électro, des gars du Sud, mais aussi du Nord, la bande de Vikings, derrière Asgeir et toute la scène islandaise. De la lave sur de la glace. Ça, c'est tout. Emel Matlouti. في اللحظة هذه ما تتصورش الحزن اللي ركبني اللي ركبني في اللحظة
Nous sommes à la mi-temps de cette émission et oui. Comme chaque jour, la mi-temps dans les vestiaires, c'est
sonne le moment Guillaume Meurice. Et où on l'a envoyé, vous pensez bien?
Oui, il y a du top modèle, il y a des beaux vêtements, c'est tout pour lui. La Fashion Week.
Eh bien, écoutez, c'est aujourd'hui le dernier jour des défilés de la Fashion Week. On est content. Mais ça fait quand même bien longtemps qu'on connaît la grosse tendance du moment. Hein, c'est la veste réversible. François Bayrou, Thierry Soler, Valérie Pécresse, Georges Fenech, les socialistes avec Macron, plein d'autres l'ont déjà adoptée. Alors cette veste se porte avec le pantalon sur les chevilles. Hein, on voit, ils ont tous baissé leur froc. Et pour avoir plus de précisions sur les autres tendances, je suis allé ce matin devant le défilé Chanel au Grand Palais. Alors, quelle est la femme ou l'homme politique le mieux habillé selon les spécialistes de la mode?
François Fillon.
François Fillon, il est hyper bien habillé?
Oui, super.
Et moi, je pensais que c'était un peu ringos, moi, son style.
Pas du tout, parce que vous n'êtes pas un gars, vous, peut-être?
Et allez ça commence bien, mais merde, en plus, je suis au top aujourd'hui. Allez, je mets ma belle chemise.
Un petit vichy.
Puisqu'on parle d'humour, continuons sur Fillon.
Il est sobre, chic et sobre.
Ouais.
Il inspire confiance.
François Fillon, il inspire confiance.
Tout à fait.
Mais non.
Ah bah si.
Mais au niveau vestimentaire seulement, du coup.
Non, non, c'est toute sa personne m'inspire totalement confiance.
Même en ce moment-là ?
Mais surtout en ce moment.
Ah bah, tu m'étonnes, hein. S'il y a bien un gars à qui j'ai envie de confier mes économies en ce moment, c'est bien Fillon. Hein, ou Bernard Tapie, à la limite. Mais bon, en tout cas, c'est un homme de confiance. Alors, à l'inverse, quelle est la femme ou l'homme politique le plus mal habillé, selon cette même personne ?
Amon,
il est pas bien habillé.
Ouais.
Mais est-ce que c'est vraiment au niveau de l'habillement que jugez, oui. Ou est-ce que c'est, alors, c'est totalement dis, objectif?
Oui.
Alors qu'est-ce qui va pas alors dans son style?
Une espèce de look faussement urbain, je pense.
Eh oui, ça on lui a dit à Benoît. Hein. Ça arrête le faussement urbain, putain. Le survêt de Sergio Tacchini, le jean baggy en meeting, ça te va pas du tout, Benoît. Putain, t'es pas le candidat du streetwear, merde. Bon, allons voir un autre spécialiste hein, pour parler mode et politique.
Mélenchon, vous avez le manteau noir, l'écharpe rouge, les petits triangles de comment ça s'appelle, l'Illuminati, tu sais, petit triangle rouge d'Illuminati. Sinon,
Mélenchon, il a un triangle Illuminati.
On est bien sur son col, il a toujours un petit triangle rouge.
C'est vrai, dis donc ça. Non mais attendez, c'est vrai. Non parce que lui, il dit que c'est pour rendre hommage aux déportés communistes pendant la guerre. Mais non mais si ça se trouve, c'est un Illuminati.
Ouais, c'est ça, ouais.
D'ailleurs, c'est l'Illuminati le moins discret du monde. Hein. Parce que le principe, c'est la discrétion. Normalement, tu portes pas un pin's je veux dominer le monde et manger tes enfants. Hein, normalement. Mais bon, on apprend des choses quand même à la Fashion Week. Et alors, qui est mal habillé, hein, selon ce monsieur? C'est une certaine Martine de Lille.
Aubry, ouais, c'est vraiment une catastrophe, elle. Hein.
Au niveau de l'habillement?
Ah bah oui.
Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui va pas?
Parce qu'elle comprend rien.
Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse?
Bah, qu'elle se fasse inviter ici, qu'elle s'habille avec des vêtements un peu du coin, là, puis faire un peu la prétentieuse, comme ils font tous.
Ah, elle fait pas assez prétentieuse?
Oh non, non, elle fait pas prétentieuse, elle fait vraiment ringarde.
Ah bah, bienvenue au club, Martine, tiens. Ah, si tu deviens ministre de l'Intérieur en charge de la Fashion Police, je pourrais être commissaire, je pense. Alors, comment devrait être habillée Martine Aubry, selon ce monsieur? Eh ben, peut-être comme lui-même a habillé sa femme, qui était présente à ses côtés. Alors, j'ai envie de dire, description.
Donc voilà, un sac de graines... d'engrais. Voilà, Dior.
Vous êtes habillé en sac d'engrais. En sac d'engrais Dior.
Voilà, monté sur une robe ancienne. Sa costume coiffe paysanne.
Voilà, un sac d'engrais sur une robe ancienne avec une coiffe paysanne sur la tête. Donc Martine, si tu nous écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire pour la mairie de Lille ou le carnaval de Dunkerque. Hein, ça peut servir pour les deux. Alors attention Florence, parce que là, ça va vous concerner. C'est pas tout, parce que comme conseil, voilà, puisque ce couple avait un chien.
Et le chien alors?
Ah, le chien, on l'a habillé fluo parce que comme ça tout le monde le voit. Et normalement, il a une bande Adidas signée par comment il s'appelle le tennisman?
Tsonga,
mais on l'a perdu. Il l'a perdu.
Le chien a perdu l'autographe de Tsonga.
Ah ouais. C'est malheureux, j'en suis malade. Mais comme ça, il perd tout le chien.
Ah, mais il est fashion quand même.
Ah, il est très fashion.
Et en tout cas, c'est le chien le plus fashion que je n'ai jamais vu. Et encore, il a perdu l'autographe de Tsonga. Sinon, il était encore plus fashion. Tu es le fashion game, hein, Loïc. Hein, ça me donne envie d'adopter un Yorkshire et de me le faire dédicacer par Florence Foresti. Gros succès pour ce chien parce qu'il y avait beaucoup de photographes, évidemment, des photographes amateurs. Amateurs de quoi?
Je fais des photos des mannequins à la sortie.
Ouais, voilà. C'est la mode qui vous intéresse?
Oh, pas trop, non.
Alors qu'est-ce qui vous intéresse?
Je vous dis, le mannequin.
Ah oui, les filles alors du coup.
Oui, voilà. C'est paysage vrai, féminin.
Ouais, le paysage féminin, voilà. Pas les vêtements, mais ce qu'il y a en dessous. On va pas lui en vouloir, hein. C'est certainement plus agréable à regarder que le paysage politique.
Et après Guillaume, on entame la deuxième partie de cette émission, on change d'invité.
Oui. Est-ce que c'est une bonne idée?
Oui,
il est très drôle,
Philippe Tesson est venu nous rendre visite, et alors là, il nous a éclaté l'émission.
C'était lui le plus jeune.
Il nous a retourné comme une crêpe, c'était fabuleux, très bon souvenir avec Philippe
Tesson.
Exactement,
on écoute.
Alors on le fait partager.
Est-ce que c'est le théâtre ou la polémique qui vous tient comme ça en si bonne santé?
Je crois que c'est l'intelligence.
Génie, hashtag génie.
Alors Alain Delon, bonjour.
Vous m'insultez. Il était venu faner comme une vieille rose.
Ça y est, un dérapage,
il est
7 ans, 14.
Il est plus jeune que moi.
Ah oui?
Bah évidemment, et vous voyez sa gueule?
Non, je peux plus la voir.
Il n'est plus faisable, tandis que regardez-moi. Il n'y a pas de caméra.
Non. Si, aussi. Ouais. Philippe Tesson, vous êtes aussi polémiste. Ça, c'est un métier. Alors, nous qui sommes belges, Alex et moi, on se dit polémiste.
Ah, vous êtes belge?
Mais oui.
Mais moi, je suis un peu belge.
Mais il paraît que vous êtes du Cambrésis.
Exactement, voilà. Je suis né à quelques kilomètres de la frontière belge. Ma mère était un peu belge, mon père aussi. merci. Et ah ben oui, je me sens très très. Mais attendez, ben on peut aller prendre un verre. Non, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je déteste les Français, surtout quand les Français disent du mal des Belges. Je trouve que les Belges sont des gens très intéressants, truculents. Ils ont une générosité formidable, beaucoup plus de culture qu'on ne pense. Ils ont l'air parfois un peu bêtes, mais non, mais vraiment, je ne plaisante pas. J'adore la Belgique. Je trouve que c'est un vrai pays, un pays, un pays généreux, un pays où j'aimerais finir mes bientôt
dans
mes,
50
mes,
ans.
Mes
oui.
jours. Non, non. Ah non, j'aime beaucoup. Je suis, d'où êtes-vous?
La Louvière, moi. Oh, entre Mons et Charleroi.
Je connais très bien la Louvière et Bruxelles, vous connaissez?
Voilà. Oui, oui. Alors, Alex est de Bruxelles.
J'en viens.
Non,
mais oui.
Mais on est tous un peu belges. Mmh.
Je m'en sers un petit verre ou pas?
Ce qui est étonnant.
Je m'en reviens une bière. Ouais.
Philippe Tesson, vous écrivez toujours, vous êtes éditorialiste au Point, au Figaro Magazine, et vous êtes donc polémiste. Mais alors ça, c'est pas très belge, parce qu'il n'y a pas vraiment de polémiste en Belgique. Agiter le débat comme ça, qui est déjà un peu hystérique en France, ça c'est alors, un très français.
D'abord, il y a énormément d'humoristes qui sont belges, vous ferez remarquer. Il y a
beaucoup
d'humoristes, oui, mais de polémistes.
Non, un polémiste qui n'a pas d'humour, de toute façon, ça n'existe pas pour moi. Il faut qu'un polémiste ait de l'humour.
Et inversement, est-ce que vous est-ce que vous vous sentez un peu humoriste
hein?
Est-ce que vous vous sentez un peu humoriste?
Non, je me sens polémiste, oui. Mm-hmm. J'aime bien la réaction, j'aime bien réagir, j'aime bien me battre, oui, j'aime bien. Humoriste, non, j'ai pas assez d'humour pour être un humoriste professionnel. Du moins, j'ai trop d'humour.
Voilà, ça m'étonnait aussi de la modestie.
J'ai beaucoup trop d'humour pour être un humoriste comparable à la moyenne des humoristes d'aujourd'hui.
Voilà, non, voilà.
Parce que qu'est-ce qu'il y a comme chieur, comme con.
Il y en a qui viennent de Belgique.
Il y en a autour de la table.
Non, il y a, oui, mais ceux-là sont sur le haut du panier. La référence, c'est Raymond Devos. Mmh. Ah, enfin, il n'était pas, excusez-moi, il n'était pas latin, il n'était pas méditerranéen, il n'était pas des bords de Loire. C'était un vrai ch'ti, il était formidable. Mmh. Ah, mais c'est le modèle. C'est non, ils en connaissent. Il y a des écrivains belges qui sont féroces. Le théâtre belge, vous avez une culture belge, si je comprends bien.
Un peu.
Vous connaissez bien le Cromlech, des mecs comme ça, c'est absolument fantastique. Les peintres belges, ils ont un humour féroce. J'aime cette sorte. L'émission est un peu culturelle, lui.
Oui.
Allez, ce que vous en faites.
Oui. C'est beau,
il est déjà 17 ans.
Oui. Et quand un
si
polémiste.
Si je peux dire un mot, en placer une, parce que franchement, il y a beaucoup qui parlent ici. D'abord, vous êtes trop nombreux. Vous êtes 5, moi je suis tout seul. C'est pas juste.
C'est vrai.
C'est un traquenard.
Mais vous êtes venu avec le sourire.
Mais j'ai le sourire naturel, c'est ma morphologie, mon métabolisme, ma culture. Je suis pas nul, hein.
On va aborder ce premier sujet avec vous, Philippe, si vous le voulez bien, parce que vous avez les commandes de l'émission, si vous voulez. Nous sommes soucieux de nos élus. Oui, afin qu'ils travaillent correctement et qu'ils ne grugent pas, on se demande s'ils sont suffisamment bien payés, car ils ne comptent pas leurs heures ni leurs indemnités. Et récemment, le non-cumul des mandats a créé un choc chez eux. Un mandat de moins, c'est une perte de revenus considérable pour certains, comme l'a rappelé récemment Claude Bartolone.
On m'a prié justicienne. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il?
Voilà, Bartholomew qui perd un mandat, c'est fufu dans la VAR. Philippe Tesson, il semblerait que nos politiques ne soient pas assez payés, puisqu'ils cumulent, qu'ils engagent leur famille, qu'avant ils tapaient dans la caisse, une pratique qui ne se fait plus bien sûr.
Non.
Mais donc on peut s'imaginer que la responsabilité politique n'est pas payée à la hauteur du travail qui est effectué.
Non, je pensais, j'ai pas écouté ce que vous demandiez, mais je pensais à vous, je vous regardais, d'ailleurs, vous faites très bien, vous posez bien des questions, même quand on les écoute pas, mais
c'est le Georges Marchais du Figaro, il est bien avec ses réponses.
Attendez, c'est très non, mais ce que je dis est plus intéressant que vos balivernes.
Vous vous êtes mis la pression tout seul, vous écoutez.
Votre émission est très intéressante, et elle est perverse. Parce que. Oui. Elle est très perverse. Non, mais j'ai rien contre parce que moi-même je suis assez perverse. On est avec vous sur la ligne, et puis vous faites très très bien parce que, surtout quand on vous voit, vous n'avez pas l'air bête. Et vous avez l'air très courtoise, très agréable à vivre.
Vous aussi, Philippe.
On va vous donner envie, mais pas seulement par votre charme physique, qui est incontestable, et que tous les auditeurs peuvent voir, puisque votre émission est soi-disant télévisée.
Oui, c'est vrai.
Et vous donnez l'image et l'impression d'une fille cultivée, bien élevée, contente. Non, mais c'est vrai.
Vous,
jusque-là, on est d'accord.
Hein. Et la tonalité de l'émission est dans la dérision. Mm-hmm. On est donc toujours avec vous sur une ligne crête entre le sérieux et le léger. Mais
c'est ça.
Moi, j'adore ça, je vous dis tout de suite. J'adore vous écouter. Mais quand on est l'invité, c'est-à-dire le héros,
oui. en quelque sorte,
à qui on doit l'estime, l'admiration, on ne sait pas très très bien sur quel pied danser. On ne sait pas s'il faut répondre sérieux.
Et,
je trouve la réponse à ma question. Ah. Finalement, il faut être à votre image. Il faut faire la synthèse entre. C'est vrai, hein. Il faut faire la synthèse entre le sérieux. Il ne faut pas avoir l'air trop con. En plus, pour être con, il faut du talent, si je puis dire. parce que c'est un peu con, votre émission.
Non, mais, tout à fait.
Voilà, c'est exactement. Votre émission, elle est conne et elle est bonne.
Ouais. Mais vous avez trouvé le slogan.
Il y a une petite panne dans l'orthographe, enfin une petite couille dans l'orthographe. Enfin, bonne et conne, ouais. La langue fourche et on est tout de suite dans la connerie quand on veut.
Philippe Tesson, engagé comme chroniqueur.
Alors, attendez,
bon.
Je vais vous dire quelque chose. Alors, moi je suis pas con. Vous non plus d'ailleurs, mais en même temps vous devez avoir l'air un peu conne pour être bonne. Je voudrais être exactement à l'image de ce que vous faites.
Mais vous êtes assez bonne.
Si vous voulez, je vais réfléchir et je reviendrai demain pour vous répondre.
Oui, pas de souci.
D'ailleurs, quelle était la question ?
Moi-même, je m'en rappelle.
Les politiques sont-ils trop payés ?
Ah, oui. Alors, si je
oui,
suis.
Oui, non, peut-être.
Les deux.
Juliette Arnoux. Oui. Non, alors pour la première fois.
Oui ou non ?
Tout à fait, j'y vais. Je suis déjà lancée. Donc oui, pour la première fois, une autobiographie. Alors avec une question du courrier des lecteurs. Si, mettons, on est un être humain dont la valeur morale, esthétique équivaut à celle d'un site d'enfouissement des déchets, doit-on s'abstenir de cet exercice, l'autobiographie ? Je réponds oui, peut-être. Pour les autres, méfiez-vous. Il subsiste moult écueils concernant l'autobiographie. Premier écueil, la tentation narcissique. Si c'est pour faire, moi, je, personnellement, ma vie, mon œuvre, merci bien, on a déjà Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et Tumblr. Si c'est pour raconter des cracks, abstenez-vous également. Je vais simplement citer Arthur Schnitzler. Il est bien à plaindre, celui qui ne vit pas sa vie, mais son autobiographie. Réfléchissez, vous me répondrez demain. Troisième écueil, c'est pas évident d'échapper à un vrai ridicule. Dire ce que son art ou ses actions n'ont pas su dire ou démontrer. Bah oui, normalement un artiste ou un homme politique, il a fait le boulot avant, ou il est en train de le faire. Il n'a pas besoin de raconter dans un livre ce qu'il aurait dû faire ou ce qu'il est en train de faire. Bref, heureusement, le monde de la littérature regorge de documents qui échappent à tous ces écueils. Ce sont souvent d'ailleurs des romans autobiographiques, c'est-à-dire avec une plus-value littéraire. Je vous sens dubitatif. J'en veux venir ici, que ce petit livre que
voilà,
j'ai dans ma main gauche, cette biographie-ci, Illuminations et Nuits Blanches, échappe à tous les écueils susnommés. Et j'y ai sauté dessus tel la vérole sur le bas clergé, parce que Carson McCullers, l'auteur, n'a pas beaucoup écrit. Alors Carson me manque facilement. Tomber sur son autobiographie, c'est comme se balader sur la tombe de Jim Morrison au Père Lachaise quand on est fan des Doors. Et là, boum, il sort et il vous fait un clin d'œil. Enfin, lire l'autobiographie, c'est forcément moins flippant. Enfin, c'est moins morbide surtout. C'est une autobiographie fragmentaire due à la mort de l'auteur alors qu'elle était encore en train de l'écrire. Elle est morte d'une crise cardiaque à 50 ans. Vous allez me dire, c'est jeune tout de même, de toute façon. Carson McCullers, c'est l'essence même de la jeunesse. Après toute une vie de souffrance physique horrible. En gros, elle a eu une crise de rhumatisme articulaire quand elle était gamine, qui a été mal diagnostiquée, mal soignée. Elle passera toute sa vie à souffrir d'attaques. D'abord des et puis elle finira avec une hémiplégie et une attaque cardiaque qui fut fatale, donc à 50 ans. Elle a une vie entière à travailler, d'où le titre, Les Nuits Blanches, et une vie à écrire des histoires merveilleuses, Les Illuminations. On a dit d'elle qu'elle était un écrivain mineur. Pourquoi ? Je sais pas. Parce qu'elle écrivait des romans assez courts, parce qu'elle en a écrit peu, sans doute aussi parce que c'était une femme, et puis parce que son premier roman, Le cœur est un chasseur solitaire, est adoré par les romans. Alors en général,
Les gens qui écrivent des romans adorés par les ados, on les méprise un petit peu. Avec un titre pareil, Le cœur est un chasseur solitaire, bien sûr que les ados se sont jetés dessus. Avec un titre pareil, on aurait d'ailleurs, on s'attendait pas à un roman qui soit aussi en phase avec son époque, sur la dureté du monde, les noirs et les blancs d'ailleurs. Carson McCullers a été menacé par le Ku Klux Klan. Un roman sur les pauvres et surtout sur les esseulés. C'est un livre de gens seuls, où tout le monde se confie à un personnage qui s'appelle Singer, qui est sourd et muet. Et à un moment, Singer écrit... Souvent, l'aimer n'est pas ce qui déclenche l'empire lentement accumulé dans le cœur de celui qui aime. L'amour est une chose solitaire, c'est cette découverte qui fait souffrir. Littérature adolescente, ah bah ouais, s'il vous plaît, bien sûr, autant se préparer dès son jeune âge. D'ailleurs, à l'époque où elle l'écrit, Carson McCullers, c'est une quasi-ado, elle a 23 ans. C'est un écrivain donc prodige, et le bouquin est publié en 1940, c'est-à-dire l'année à laquelle Fitzgerald meurt, lui-même qui était devenu célèbre à 24 ans avec son premier roman, L'Envers du Paradis. Sagan, Fitzgerald, Carson McCullers, c'est ça les écrivains prodiges. Elle a écrit ce livre, elle essayait, enfin elle a en tout cas entrepris de l'écrire, Carson, parce qu'elle voulait, elle avait deux raisons pour l'écrire. La première, c'était essayer de comprendre ce qu'avait été sa propre vie et son travail. Et la deuxième, c'était raconter et expliquer à de futurs jeunes écrivains ce que c'était que le poids du succès quand on est si jeune et ce que ça avait été sa manière à elle d'être illuminée. Par exemple, pour Le cœur est un chasseur solitaire, à un moment elle écrit « À force de réfléchir en marchant, j'ai découvert qu'il, le personnage, Singer, était sourd et muet, ce qui expliquait clairement pourquoi les autres personnages lui parlaient sans qu'il ne réponde jamais. » Donc on s'y remet. Personnage central, Singer, sourd et muet, tout le monde lui parle mais il ne répond jamais. Bah c'est Dieu quoi. Mais version améliorée, version Carson McCullers. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnault, merci. Vous pouvez rappeler les références de l'ouvrage?
Oui, alors c'est un petit livre qui coûte pas cher puisque c'est chez 10-18 et ça s'appelle Illumination et Nuit Blanche.
Merci Juliette Arnault. Philippe, on va en revenir à vous un petit peu.
Ah bon?
C'est un rôle, on a un rôle pour vous.
Oui, demain, on propose un sketch à l'invité. Et alors, vous allez jouer le rôle de Philippe Tesson, spécialiste de théâtre.
Oui, Emmanuel... Mais j'ai pas lu avant.
Ah bah c'est... Tous les jours c'est pareil.
Nous
tous les jours c'est pareil.
Ouais, bah, faites-moi confiance. Puis on recommencera après. Ouais, alors vas-y, commence.
Guillaume Meurice est Emmanuel Macron, Brigitte c'est Charline, et on se rend au
et
meeting.
Et moi je suis qui?
Vous êtes Philippe Tesson.
Ah bah oui.
Demandez le programme, demandez le programme.
Ah, vous avez un programme?
Oui, celui de mon one-man show.
Oui, enfin, il parle de ses meetings.
Parlons-en, tout est à revoir.
Ah quoi, vous n'aimez pas mon projet?
Je comprends pas très bien ce que vous dites. Vous entrez à cour ou à jardin?
Ah, je comprends pas non plus.
Quand vous faites face à la scène, c'est à gauche ou à droite?
Au centre.
Ah oui, bah la cour et le jardin, c'est pour les photos dans Paris Match. Ah,
c'est pas clair tout ça. Tout comme votre placement de voix.
Qu'est-ce qu'elle a ma voix?
Calme-toi Emmanuel, monsieur n'est pas sourd. Hein.
C'est pas gagné pour les apartés alors.
Bon, à part la cour, le jardin et la voix, c'est tout ce que vous avez à redire?
Non, je suis assez déçu par le nouveau second rôle.
Non mais oh, non mais vous savez ce qu'il vous dit le second rôle?
À vous madame, ah. Quoique...
Alors qui?
François Bayrou.
Ah oui, oui, le pauvre, heureusement qu'il n'est pas ici.
Diantre, on parle de moi.
Ah non, on en parle, il paraît. Il arrive. On dirait du théâtre de boulevard. Le côté amant dans le placard.
T'entends ça, Brigitte?
Non, Emmanuel n'est pas homosexuel.
C'est pas ce que j'ai dit. Pouvons-nous parler du titre de votre spectacle?
Bon, ça vous plaît pas? En marche?
Ça fait notice pour ordinateur.
Oui, alors, moi j'avais proposé Manu raconte sa life.
J'aurais bien vu un titre plus classique, comme par exemple... Non mais qu'est-ce que vous me faites dire? comme par exemple le Tartuffe ou l'imposteur.
Dites donc, vous cherchez à m'humilier, là?
Pas du tout. Vous faites quoi l'été prochain?
Ah ben ça dépend du mois de mai là.
Vous êtes déjà allé à Avignon?
Pour le festival?
Oui, vous auriez beaucoup de succès.
Hein. Emmanuel n'est pas un intermittent du spectacle.
Non, hein. Moi je suis un permanent du spectacle!
On arrive à la fin de cette émission et à la fin de la semaine.
Et oui, mais donc un petit cadeau.
Ah bah,
on ne va pas partir comme ça en week-end.
Pas un vendredi sans qu'il soit là, évidemment.
Mais Frédéric Fromet, qu'est-ce qu'il va nous chanter?
On apprend qu'après une longue pause durant laquelle il nous a beaucoup manqué, le groupe Fauve revient.
Ah.
Voilà, et donne son avis sur la campagne présidentielle. Tu nous entends la politique, tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe à toi quand tu nous prends pour des débiles. On pourrait te maraver la face tellement on n'a jamais cru aux paroles d'évangile. Ni au programme, ni au projet, ouais, en mode costard pour faire style. Tu nous entends la punchline, tu nous entends? C'est plus des débats, c'est des battles entre la fouine et Booba. Sauf que si on regarde bien, c'est pas les rappeurs les vrais Kaira, mais les politicards qui feraient passer Cosa Nostra pour des petits bras. Hey, tu nous entends, l'Institut de sondage, tu nous entends? si tu nous entends, fais gaffe à ta petite gueule, Brice Teinturier. Parce que tu vois, on se demande si tu serais pas plus nul qu'Elisabeth Tessier. Enfin bon, on t'aime bien quand tout nous est favorable. Sinon, t'es comme Elisabeth. Fais chier. Hé, hey, tu nous entends, le militant? Tu nous entends? T'as tellement d'œillères que tu vois moins bien que Gilbert Montagnier. T'es tellement embrigadé qu'on pourrait te faire croire que c'est Francis Lalanne qui va gagner. T'es tellement pour les bleus ou pour les rouges qu'on dirait un hooligan du PSG. Tu nous entends, Twitter? Tu nous entends? Si tu nous entends, sache qu'on pourrait te faire bouffer tes 140 caractères. C'est donc ça la pensée? Être le prums à balancer sur le net un mini commentaire? Puis compter les likes et se persuader qu'on a un putain d'expert? Tu nous entends, la mise en scène? Tu nous entends? La mise en scène de l'homme providentiel, le gourou, Dieu? Les meetings, c'est comme la messe, du mytho, du vent, du creux. Et les fidèles qui se bousculent pour un selfie avec celui qui va les entuber. Alors, heureux? Tu nous entends, le droit de vote? Tu nous entends? Si tu nous entends, où t'as vu qu'un droit c'est un devoir? Où t'as vu qu'on était obligé de se rendre dans un isoloir? J'aime pas la couleur des rideaux, je les trouve ringards. Tu nous entends, la planète Mars? Tu nous entends? Si ça continue, on va s'y réfugier, loin des malades, loin des camelots, loin des menteurs, loin des hystériques, loin des Bogdanov, loin des cheminades. De toute façon, avec ou sans eux, ça sera vite super crade. Tu nous entends, Thomas Pesquet? Tu nous entends? On comprend mieux pourquoi tu t'es barré, gros malin. Jusqu'ici, on se demandait, vu que chaque jour, on a la preuve que tu fous rien. Bah reste encore un peu là-haut. Ici, ça craint.
Et voilà, Alex, on va se retrouver lundi.
Allez, à lundi. Est-ce qu'on a du beau programme la semaine prochaine?
Oui, dès lundi déjà, on sera en direct, en très grande forme avec toute l'équipe, vous savez bien. On va recevoir notamment Hélène Vincent. Son programme est aussi Lilian Thuram, Rachida Brakni. Et vendredi, nous serons...
au Havre.
Exactement.
C'est pas vrai.
Tout à fait.
Venez nous rejoindre.
Ouais, et puis merci à toute l'équipe, bien sûr, à la préparation. Nathalie Romero, Sarah Masson, Irène Menahem, avec la collaboration de Clara Lagrange et à la réalisation Anne-Sophie Ladonne. À lundi.
Il y a Édouard Philippe qui me dit qu'il sera au Havre. Il a pas envie de vous voir.